Chapitre 4. Découverte d'Ample Street. Et Villiers s'en fut, pensant à sa comparaison des boîtes chinoises. Curieux travail, en effet. Quelques mois après la rencontre de Villiers et d'Herbert, M. Clark était assis, selon l'usage, à son foyer d'après-souper, gardant résolument ses fantaisies de s'égarer vers le petit bureau. Pendant plus d'une semaine, il avait réussi à se tenir à l'écart des mémoires, et maintenant il caressait l'espoir d'une réforme complète. Mais, en dépit de ses tentatives, il ne pouvait imposer silence à la curiosité qu'avait excitée en lui la dernière affaire relatée sur son registre. Enrichi de ses propres conjectures, il l'avait exposée, ou esquissée plutôt, à un de ses amis hommes de science. Celui-ci avait secoué la tête et trouvé Clark particulier. Aussi, ce soir-là, Clark faisait-il un effort pour rationaliser l'histoire, lorsqu'un coup à la porte le tira de ses méditations. « Monsieur Villiers demande à voir monsieur. »« Ah, Villiers, comme c'est gentil de penser à moi. Voilà des mois que je ne vous ai pas vu, près d'un an, je pense. Entrez, entrez. Et comment va Villiers ? Besoin d'avis pour les placements ?»« Non, merci. Je pense être en pleine sécurité de ce côté-là. » « Non, Clark, je suis ici en réalité pour vous consulter sur une affaire un peu à part, qui est venue dernièrement à ma connaissance. J'ai peur que vous ne trouviez tout cela absurde quand je vous en aurais fait mon compte. Je suis moi-même parfois de cet avis, et c'est justement pourquoi je me suis mis dans la tête de venir vous trouver, vous sachant avant tout un homme pratique. » Monsieur Villiers ignorait les « mémoires pour prouver l'existence du diable ». « Eh bien, Villiers, je serai heureux de vous donner un avis au mieux de mes forces. Mais quel est le cas ?»« Extraordinaire à tout point de vue. Vous connaissez mes habitudes, vous savez que j'ouvre mes yeux tout grands dans la rue et qu'il m'est arrivé quelquefois de tomber sur de drôles de pratiques ou de drôles de cas, mais celui-ci les bat tous. Je sortais du restaurant par une nuit sale il y a environ 3 mois. J'avais eu un dîner confortable avec une bonne bouteille de Chianti et je m'usais un peu sur le pavé, songeant au mystère que sont les rues de Londres et les gens qui y passent. Une bouteille de vin rouge encourage à ces fantaisies, Clark, et j'ose dire que j'aurais bien pensé toute une page en petits caractères lorsque je fus interrompu par un mendiant surgi derrière moi qui faisait les appels d'usage. Je regardais machinalement et mon mendiant se trouva être tout ce qui restait d'un vieil ami à moi, un nommé Herbert. Je m'exclamai de le voir tomber dans cette misère, et il m'en donna l'explication, tandis que nous nous promenions de long en large dans une de ces sombres rues de Soho. C'est là que j'entendis son histoire. Il me conta avoir épousé une fille superbe, plus jeune que lui de quelques années, et qui bientôt, selon ses propres expressions, l'avait corrompu corps et âme. Il ne voulut pas me donner beaucoup de détails, prétendant ne pas oser, et que ce qu'il avait vu ou entendu le hantait nuit et jour. Et comme je le regardais en face, je connus qu'il disait la vérité. Il y avait quelque chose en lui qui me donnait le frisson, je ne sais pourquoi. Je le congédiai avec un peu d'argent, et je vous assure qu'après son départ, je fis un effort pour respirer. Sa présence avait glacé mon sang. Est-ce que tout cela n'est pas un peu de fantaisie, Villiers ? Je suppose que le pauvre garçon aura fait un mariage imprudent, et puis, en langage ordinaire, il aura mal tourné. Eh bien, écoutez la suite. Et Villiers conta à Clark l'histoire qu'il tenait d'Austin. « Il n'y a pas de doute, comme vous voyez, » conclut-il. « Et ce monsieur Blanc, quel qu'il fût, est mort de peur. Il a vu quelque chose de tel dans cette maison que sa vie s'est arrêtée net. Et c'est bien là qu'il l'a vue, à ce numéro 20 qui, d'une façon ou d'une autre, avait acquis une mauvaise réputation dans le quartier. Les maisons y sont assez vieilles dans ce quartier pour être sordides et tristes, mais non pas assez pour être étranges. Autant que j'en ai pu voir, toutes sont louées par appartements, garnis ou non garnis, presque chaque porte a 3 sonnettes. Par-ci, par-là, les rez-de-chaussée ont été transformés en mauvaises boutiques, tristes rues à tous égards. Ayant constaté que le numéro 20 était à louer, j'allai chez l'agent chercher la clé. Naturellement, on ne m'aurait soufflé mot des Herbert, mais je demandai carrément à l'homme depuis quand ils avaient quitté la maison et s'il y avait eu d'autres locataires dans l'intervalle. Il me jeta un drôle de regard et finit par me dire que les Herbert étaient partis tout de suite après ce qu'il appelait les désagréments et que la maison était restée vide depuis. Villiers se tut quelques instants et reprit. J'ai toujours été fou des maisons vides. Il y a comme une fascination dans la tristesse des chambres inhabitées, dans les clous à la muraille, dans la poussière épaissie au châssis des vitres. Mais le numéro 20 de Paul Street ne me réjouit guère. J'avais à peine le pied dans le corridor que je notais une singulière et pesante impression causée par l'atmosphère. Il est certain que toutes les maisons vides sentent le moisi ou quelque chose d'approchant, mais ceci était tout à fait à part, je ne puis le décrire. La respiration en paraissait paralysée. Je parcourus les appartements de façade et de derrière les cuisines, aussi dans le sous-sol. Tout cela était assez malpropre et poussiéreux, mais on y ressentait en plus je ne sais quoi d'indéfinissable. Et il y avait surtout une pièce au premier, la pire, une pièce spacieuse dont le papier jadis avait dû être assez gai. Mais quand je la vis, peinture, papier, tout était lugubre. Et la chambre était pleine d'horreur. Je sentis mes dents s'entrechoquer rien qu'à toucher le loquet. Et une fois entré, je crus m'évanouir sur le sol. Je me ressaisis pourtant et, appuyé au mur, je me demandais ce qu'il pouvait y avoir là pour faire trembler mes membres et battre mon cœur comme à l'heure de ma mort. Dans un coin par terre se trouvait une pile de journaux en désordre où je jetai un coup d'œil. C'étaient des journaux vieux de 3 ou 4 ans, quelques-uns à moitié déchirés, d'autres froissés comme s'ils avaient servi à faire des paquets. Je retournai toute la pile et trouvai dessous un curieux dessin, je m'en vais vous le montrer, un dessin dont la vue m'oppressa. Bref, je ne pus demeurer davantage et me félicitai de regagner sain et sauf le grand air. Les gens me regardaient dans la rue et quelqu'un dit que j'étais ivre. En effet, je zigzaguais d'un côté à l'autre de la chaussée. Tout ce que je pus faire fut de rendre la clé à l'agent et de rentrer chez moi, où je gardai le lit pendant 8 jours, malade de ce que le docteur appela une secousse nerveuse et du harassement. Il m'arriva alors, en lisant un journal du soir, d'y remarquer un entrefilet sous le titre « Mort de faim ». C'était les clichés ordinaires, le lodging house de Mary Le Bone, la porte fermée à clé plusieurs jours de suite et enfoncée enfin, découvrant un homme mort sur un siège. Le défunt, ajoutait-on, était connu sous le nom de Charles Herbert, et l'on croit que ça avait été jadis un riche gentleman de la province. Son nom était même devenu familier au public, 3 ans auparavant, à propos du mort mystérieux de Paul Street, Tottenham Court Road. Charles Herbert était en effet à cette époque locataire du numéro 20, et c'est dans sa cour qu'un gentleman fort riche fut trouvé mort, dans des circonstances qui ne laissaient pas de prêter aux soupçons. Une fin tragique, n'est-ce pas? Mais après tout, si ce qu'il m'a dit est vrai, et j'en suis sûr, sa vie avait été toute une tragédie plus émouvante que celle qu'on joue sur les planches. Et voilà l'histoire, n'est-ce pas, demanda Clark d'un air rêveur. « Oui, voilà l'histoire. »« Eh bien, en vérité, Villiers, je ne sais trop que vous en dire. » Sans doute il y a là des points qui paraissent singuliers, la découverte du cadavre dans la cour des Herbert, par exemple, et l'étonnante opinion du médecin sur la cause de cette mort. Mais après tout, il faut se dire aussi que les faits sont explicables naturellement. Quant à vos sensations personnelles dans la maison, je pourrais vous soutenir qu'elles sont dues à une imagination vive. Vous aviez dû couver à demi inconsciemment ce que vous avez entendu dire. Je ne vois pas trop ce qu'on peut affirmer de plus sur tout cela. Vous supposez qu'il cache un mystère, mais Herbert est mort, et où vous proposez-vous de diriger votre enquête? Je me propose de chercher la femme qu'il avait épousée. Elle est le mystère. » Les deux hommes restaient assis en silence auprès du feu, Clark se félicitant en secret d'avoir été l'avocat du bon sens et Villiers enveloppé dans ses fantaisies ténébreuses. « Et si je fumais une cigarette ?» dit enfin celui-ci, en mettant la main dans sa poche pour prendre son étui. « Ah » fit-il en tressautant légèrement, « j'oubliais que j'avais quelque chose à vous montrer. Vous vous rappelez ce dessin trouvé dans la pile de vieux journaux à la maison de Paul Street? Le voici. » Villiers tira de sa poche un petit paquet tout mince. Il était couvert de papier brun, lié avec de la ficelle, et les nœuds en étaient compliqués. En dépit de lui-même, Clark se sentait devenir curieux et se penchait en avant, tandis que Villiers défaisait péniblement les attaches et dépliait la première enveloppe. Il y en avait une seconde en tissu que Villiers ouvrit, et il tendit sans un mot un petit papier à Clark. Un silence de mort régna dans la chambre pendant 5 minutes et plus. Les deux hommes étaient si muets qu'ils pouvaient entendre le tic-tac de la vieille pendule suspendue au dehors. Et dans la pensée de l'un d'eux, ce bruit bas et monotone évoquait un lointain souvenir, tandis qu'il regardait plus attentivement la petite tête dessinée à la plume que lui avait tendue Villiers. C'était une œuvre d'artiste traitée avec soin. L'âme de la femme y regardait à travers les yeux, un étrange sourire divisant ses lèvres. Et tandis que Clark contemplait ce visage, du passé évanoui un soir d'été remontait à sa mémoire. Il revit la longue et aimable vallée, la rivière sinueuse entre les collines, les prairies et les champs de blé, l'éclat sombre du soleil, le brouillard blanc et froid qui montait de l'eau. Une voix lui parlait à travers le flot de bien des années, disant « Clark, Marie va voir le grand Pan !» Et voici qu'il se retrouvait à côté du docteur, écoutant le lourd tic-tac de l'horloge, épiant la forme couchée dans le fauteuil vert sous la lampe. De nouveau Marie se levait, et de regarder dans ses yeux, son cœur devint froid au-dedans de lui. « Qui est cette femme ? » interrogea-t-il enfin d'une voix sèche et rauque. « C'est la femme qu'a épousée Herbert. » Clark regarda de nouveau le dessin. Ce n'était pas Marie après tout, quoique ce fût certainement sa figure. Mais il y avait là quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'avait pas découvert dans ses traits, alors que, vêtue de blanc, elle pénétrait dans le laboratoire, ni à son terrible réveil, ni quand il l'avait revue au lit, grimaçante. N'importe, regard venu de ses yeux, sourire de ses lèvres pleines, ou expression de toute la face, Clark frissonna dans son âme, songeant malgré lui aux paroles du docteur Phillips. « La plus vivante personnification du mal que j'ai jamais vue. » Il tourna machinalement le papier et regarda au revers. « Bon Dieu, Clark, qu'y a-t-il? Vous êtes pâle comme la mort. » Et tandis que Villiers s'élançait brusquement de sa chaise, Clark s'affaissa avec un gémissement, laissant le papier s'échapper de ses mains. « Je ne me sens pas très bien, Villiers. Je suis sujet à ces crises. » « Versez-moi un peu de vin, Merci, cela fera l'affaire. Je serai remis dans quelques minutes. » Villiers ramassa le papier et le retourna comme avait fait Clark. « Ah, vous avez vu cela, » dit-il. « C'est ce qui m'a permis de l'identifier à la femme d'Herbert, ou à sa veuve, pour dire mieux. Comment vous sentez-vous maintenant ?»« Mieux, merci. Ce n'était qu'une faiblesse passagère. Je ne sais si je saisis bien votre pensée. Qu'est-ce qui vous a permis, disiez-vous, d'identifier ce portrait ?» Ce nom, Hélène, écrit au revers. Ne vous ai-je pas dit que son nom était Hélène? Oui, Hélène Vaughan. Clark gémit. Il n'y avait plus l'ombre d'un doute. Maintenant, n'êtes-vous pas d'accord avec moi, dit Villiers, que dans l'histoire que je vous ai racontée ce soir, et dans le rôle qui joue cette femme, il y a des points curieux? Oui, Villiers, murmura Clark. C'est une étrange histoire, vraiment très étrange. Donnez-moi du temps pour y réfléchir. Peut-être pourrais-je vous aider, peut-être non. Vous partez? Eh bien, bonne nuit, Villiers, bonne nuit. Revenez me voir dans une semaine.